êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Cinq ONG lancent un nouveau cri d'alarme et appellent le gouvernement français à rapatrier les quelques 200 enfants français retenus dans des camps kurdes au nord-est de la Syrie. C'est une urgence, notamment sur le plan sécuritaire, nous dira Patrick Baudouin, avocat au barreau de Paris et président d'honneur de la FIDH. Il sera l'un de nos invités. La répression des manifestations anti-pouvoir militaire au Soudan, un manifestant a été tué hier à Khartoum. La crise en Ukraine, Moscou juge prématuré d'organiser un sommet Poutine-Biden, un sommet annoncé par la France pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Le chanteur libanais Sami Clark est mort, il était âgé de 74 ans. Sami Clark a chanté en arabe mais aussi en anglais et a remporté plusieurs prix internationaux. C'était lundi dernier, le 17e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais, Rafik Hariri. Nous écouterons le curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris, le père Fadi Elmir. Plusieurs ONG ont lancé à Paris un nouveau cri d'alarme sur le danger de mort qui menace les enfants français de djihadistes retenus dans le nord-est syrien. Des enfants retenus pour certains depuis 2017, ces ONG, dont Amnesty International et la Fédération internationale pour les droits humains, exhortent les autorités françaises à les rapatrier. Entretien avec maître Patrick Baudouin, avocat au barreau de Paris et président d'honneur de la FIDH.
Les enfants qui sont encore détenus, alors je parle de nationalité française, hein, parce que toute nationalité confondue, ils sont beaucoup plus nombreux, sont approximativement au nombre de 200 aujourd'hui encore détenus dans ces camps du nord-est syrien, à Roche, donc, et à Lol, et principalement à Roche aujourd'hui. Certains sont nés dans les camps, mais certains sont même détenus depuis 4 années, dans des conditions absolument épouvantables, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, ou quant aux conditions climatiques, puisqu'il fait très très froid l'hiver et très chaud l'été. Sont dans des tentes, évidemment, et dans un climat d'insécurité absolue, c'est-à-dire des conditions tout à fait inhumaines s'agissant sur plus d'enfants en bas âge.
Vous demandez aujourd'hui donc leur rapatriement. Comment ce rapatriement peut-il se faire? Quelle devrait être, selon vous, l'action des autorités pour accompagner ces enfants de djihadistes?
Oui, alors il faut rappeler d'abord que c'est des enfants français, en ce qui concerne l'appel que nous lançons, c'est-à-dire que les autorités françaises sont, comme tout État constitué, État de droit, responsable de ces enfants au titre des conventions internationales et du droit tout court au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut donc le protéger, cet enfant. Alors, comment les rapatrier? Il faut quand même savoir qu'il y a eu 35 enfants qui, dans les 3 dernières années, ont été rapatriés en France. Donc, ça prouve bien qu'il y a une faisabilité, une possibilité de les rapatrier. Cette possibilité est d'autant plus évidente aujourd'hui que les autorités kurdes, pour lesquelles ces camps sont un véritable fardeau, ne demandent qu'une chose, c'est précisément que les États occidentaux rapatrient les enfants et les femmes, d'ailleurs, c'est-à-dire les mères. Donc ce sont des opérations qui sont menées en pleine concertation avec les autorités kurdes de la région du Rojava, donc les forces démocratiques syriennes. Vous savez que la France, dans le cadre de la coalition internationale qui s'était créée, a des grosses possibilités sur place en termes de possibilités logistiques. C'est une opération qui n'est pas toute simple. On peut ne pas les rapatrier les 200 en même temps, mais on peut sur 3 ou 4 semaines très aisément rapatrier ces enfants. Quand ils arrivent en France, ils sont pris en charge par l'aide sociale, les juges pour enfants, placés pendant quelque temps et puis, pour la plupart d'entre eux, très rapidement remis à leur famille, à des grands-parents, à des oncles, des tantes, des frères, des sœurs qui vivent en France. Donc ce sont des opérations qui sont parfaitement maîtrisables pour les autorités françaises et, encore une fois, c'est une obligation pour la France. C'est vraiment une tâche là qui pèse sur notre pays, un véritable déshonneur que de laisser à l'abandon des enfants qui risquent de dépérir. Et certains d'entre eux sont morts dans les camps, vu les conditions dans lesquelles ils sont retenus. Et puis on peut ajouter enfin que même si on se place sur un plan autre que le plan humanitaire, le plan tout simplement du respect du droit, et bien même sur le plan sécuritaire, il est beaucoup plus sécurisant pour les autorités françaises de rapatrier ces enfants qui donc pourront se reconstruire, s'intégrer dans la société. Ils sont en bas âge, ce sont des victimes. Ils ne sont pas nés bourreaux, ils ne le sont pour l'instant toujours pas. Alors que, au contraire, s'ils restent sur place, comme les camps ne seront pas indéfiniment existants, ils seront récupérés par Daesh, vraisemblablement embrigadés, et deviendront à ce moment-là réellement dangereux pour la sécurité des États occidentaux, dont la France.
C'est donc une urgence également sur le plan sécuritaire.
C'est une urgence sur le plan sécuritaire. Ce ne sont pas des défenseurs béats des droits de l'homme qui vous disent cela. Ce sont, par exemple, les magistrats du pôle antiterroriste qui défendent cette idée de la nécessité du retour des enfants et des mères. Car toutes les mères qui sont dans ces camps, françaises, je parle, font l'objet d'un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire que leur parcours a été parfaitement suivi, et si elles sont rapatriées en France, les juges pourront instruire, il y aura des procès, des condamnations quand les faits seront avérés, mais les mères, même si elles sont détenues, pourront conserver un lien avec les enfants. Il était exclu de séparer les enfants des mères, alors que pour certains d'entre eux, depuis leur naissance, le seul lien qui existe est le lien avec la mère. Donc il faut à tout prix aussi préserver cet aspect. Mais tout ceci est parfaitement réalisable, j'insiste sur ce point. Il y a eu de nombreux candidats au djihad ou djihadistes français, hommes ou femmes, qui sont revenus par la Turquie, là je ne parle pas de ceux qui sont détenus dans les camps du nord-est syrien, et qui à leur arrivée en France ont été incarcérés, sont poursuivis dans le cadre de procès qui sont quand même menés, même si on peut estimer très sévères, la justice antiterroriste française, qui sont nommés, qui sont poursuivis dans le cadre d'une procédure d'état de droit. Alors que là-bas, on est vraiment dans une zone, ce qu'il faut bien comprendre, de non-droit. Dans ces camps, il n'y a pas de perspective de jugement. On est dans un petit Guantanamo local, en définitive.
Et pour le moment, la France rapatrie au compte-gouttes des enfants de djihadistes, mais exclut tout geste similaire pour les adultes.
Oui, alors la France a une attitude qui, en vérité, est insoutenable. Mais évidemment, il faut quand même essayer de la soutenir. Alors, il y a une évolution dans le langage, mais c'est à peu près quand même toujours le même. Pour les enfants, on les rapatrie au cas par cas et on rapatrie les plus vulnérables. Ça n'a aucun sens. Ils sont tous évidemment en situation de vulnérabilité absolue. Alors, on a rapatrié plutôt les orphelins. Il y en a eu 35, je le disais, de rapatriés. Et quant aux adultes, on nous dit, nous, on est partisans, de ce qu'ils soient jugés au plus près des crimes qu'ils ont commis. C'est la version officielle. Sauf que c'est une version qui ne tient pas un instant quand on l'analyse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de les juger sur place. Les Kurdes ont affirmé et réaffirment qu'ils ne peuvent ni ne veulent les juger dans le nord-est syrien. Ce n'est pas un État, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc il n'y a pas d'institution judiciaire constituée, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de tribunal international, personne n'a pu se mettre d'accord sur cette idée. La seule possibilité éventuelle serait de les transférer en Irak, mais on a vu ce que donnaient les procès qui ont été menés à Bagdad, c'est-à-dire qu'en une demi-heure maximum, lors de l'audience, on va juger quelqu'un qui va être condamné à mort au bout de cette demi-heure. Donc il n'y a que M. Le Drian pour penser qu'on respecte le droit au procès équitable. Donc il n'y a pas de possibilité de les juger là-bas. Conclusion, une seule solution, c'est de les juger en France. Et c'est là aussi beaucoup plus sécurisant pour ces adultes, car ils passeront en cour d'assises spéciale, ils seront condamnés à de lourdes peines. Et il y a la possibilité, pendant cette période d'incarcération, de, comme l'on dit maintenant, déradicaliser.
Maître Patrick Baudouin, avocat au barreau de Paris, président d'honneur de la Fédération internationale pour les droits humains. La répression des manifestations anti-pouvoir militaire au Soudan. Un Soudanais a été tué hier à Khartoum. C'est arrivé alors que des milliers de manifestants défilaient dans la capitale soudanaise. Un syndicat de médecins recense 82 morts depuis le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre dernier. Et dans ce contexte, l'émissaire de l'ONU pour les droits humains entame une visite vivent dans ce pays miné par la violence depuis le coup d'État. L'armée algérienne a tué samedi 7 terroristes dans le nord-est de l'Algérie. Cela s'est passé lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans une forêt située à Kolo, dans la préfecture de Skikda. Les personnes tuées ont pu être identifiées. Un attentat suicide en Somalie, au moins 14 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des responsables politiques locaux. Une attaque revendiquée par les terroristes Shebab s'est arrivée dans le centre du pays. La mise en garde des Émirats Arabes Unis contre la menace grandissante des drones. Mise en garde après des attaques utilisant ces engins lancés par les rebelles yéménites contre leur territoire. Un avertissement lancé par le ministre d'État aux affaires de la défense lors d'une conférence sur les systèmes de défense téléguidés à Abu Dhabi. Une grève générale des agents et fonctionnaires municipaux en Tunisie. Un mouvement de 2 jours entamé ce lundi. La Fédération générale des agents municipaux demande notamment la publication du statut des agents chargés des services environnementaux et la mise à jour du statut des agents chargés de la gestion. La crise en Ukraine, la Russie juge prématuré d'organiser un sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden. Un sommet annoncé par la France pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Cela à condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là. Le chanteur libanais Sammy Clark est mort. Il était âgé de 74 ans. Sammy Clark a chanté en arabe, mais aussi en anglais, et a remporté plusieurs prix internationaux. Beaucoup de Libanais, notamment, ont grandi avec sa voix, par exemple quand elle portait le générique en arabe de Goldorak. Sammy Clark a été à la tête du syndicat des artistes libanais. C'était lundi dernier, le 17e anniversaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Il était tué le 14 février 2005 avec 22 autres personnes dans un attentat à la camionnette piégée. L'hommage du curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris, le père Fadi Elmir.
Vivons pleinement ce que Rafik Hariri disait toujours et qu'il luttait pour un Liban libre, pour un Liban vraiment autonome, pour un Liban qui vit pleinement une mission, un message de charité dans ce monde. Un Liban qui est vraiment l'image, l'exemple de vivre ensemble, vivant cette ouverture du cœur que Rafik Hariri a vécu avec tous ses collaborants. Mais il y a toujours, et on prie toujours pour les gens qui veulent détruire cette ouverture d'esprit, cette vie conviviale, cette vie d'ensemble. Et vivons, prions pour que ces gens-là, ou bien qu'ils quittent notre pays, ou bien qu'ils changent leur stratégie, afin que vraiment que ce pays vive une vraie prospérité, une paix durable, qui émane de l'extérieur du cœur, et non pas uniquement une paix d'un cessez-le-feu, et que les armes soient uniquement entre les mains de l'armée libanaise. Il y ait vraiment une souveraineté profonde, et non pas un esclavage toujours à des pays X ou Y et Z. Nous désirons une souveraineté, une liberté. Libérez-nous de cet esclavage à l'extérieur. Et bien sûr que tous les pays qui nous entourent et tous les grands pays, ils sont les bienvenus. Mais en tant qu'amis, en tant que constructeurs du Liban et pas en tant que destructeurs de notre cher pays. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Et je prie.
Et que souhaitez-vous retenir de l'action de Rafik Hariri concernant notamment le vivre ensemble au Liban?
Il était un homme de dialogue. Il était un homme avec un cœur ouvert, il était un homme de construction, il était un constructeur, un bâtisseur du Liban. Et on voit autour de nous ses actions, les fruits de sa vie au centre de Beyrouth et partout. Et en même temps, cette lutte contre la corruption, des plus petits des employés de notre gouvernement jusqu'au plus grand. même les plus petits. On commence par les plus petits, là. On a besoin de ce projet de purification. Purification de la corruption dans notre cher pays, que nous soyons vraiment à la hauteur des pays modernes dans le monde. Nous n'avons pas besoin des têtes. On a des têtes vraiment bien faites au Liban, des têtes, une intelligence suprême. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de perdre des têtes de nos jeunes qui vont dans le monde et qui font des miracles dans le monde à l'extérieur. Mais à l'intérieur, malheureusement, nous sommes dominés par des têtes corrompues. Et on a beaucoup de martyrs aussi qui ont parti à cause de ça, à cause de leur appartenance au Liban.
Le curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris, le père Fadi Elmir. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Alice Timsit, membre de l'équipe de campagne du candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.